De juillet, nous avons été dans les psaumes à cause du verset qui est au-dessus de la salle, la première partie de Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus, garde ton cœur plus, qu'est-ce que ça dit ?» plus plus que, ok, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est la première partie du verset, parce que de ton cœur sortent toutes les sources de la vie. La source polluée, ce qui sort pollué. La source purifiée, ce qui sort est purifié. Les psaumes, dont il y en a 150, sont les cantiques de l'Église primitive. Vous savez, l'Église primitive, après la croix, et pendant un certain temps, chantait presque exclusivement les psaumes. Il y a certains psaumes qui ont l'air un peu bizarres, surtout pour chanter. Parfois, nous avons l'impression qu'il faut toujours chanter avec beaucoup de rythme, beaucoup de gaieté. Il y en a comme ça, il y en a qui sont comme ça, pas du tout. Il y avait des occasions de chanter comme ça, en groupe, à la famille, tout seul. Il y avait plus d'occasions que cela de chanter autre. Ils chantaient toute la semaine les psaumes, ils chantaient certaines dans leur famille, leur culte, certainement tous les jours. Et il y avait des psaumes. Quelqu'un a fait a compté les différentes émotions qui sont dans les psaumes. Et il a eu 24 différentes émotions. Nous n'allons pas toucher tous les 24. Beaucoup qui étaient en dessous la ligne de bonheur, plutôt de tristesse et de détresse souvent, parce que notre vie consiste de beaucoup de cela. Et donc les psaumes sont là pour que nous puissions apprendre deux choses: comment penser sur nos émotions et comment sentir par rapport à nos émotions. Il y a au moins un psaume que j'aimerais faire avant de terminer cette série dans les psaumes. Et ça ne sera pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, nous allons observer la Sainte Cène et il y aura un autre message. Mais la semaine après sera peut-être la dernière sur les psaumes. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ils ont été très... beaucoup d'éclaircissements à travers ces psaumes. Le chrétien devrait passer beaucoup de temps dans les psaumes pour apprendre dans ce psaume comment être brisé bien, être brisé du cœur. Pour le monde, est une maladie qui doit être traitée, parce qu'être brisé veut dire être triste, ne pas être gai, et notre raison d'être devrait être de vivre dans la gaieté sans aucun souci. Si jamais on pourrait arriver à une utopie humainement où il n'y a plus d'épreuves, plus de tristesse, plus d'angoisse, le monde est prêt, sans discuter, de aller jusqu'à là. Imaginez pouvoir vivre dans un Disney World où on ne fait que la gaieté, la joie. C'est une manière assez superficielle de penser de la vie normale et de la vie quotidienne. Donc, les psaumes sont là pour nous aider de réfléchir correctement sur nos angoisses, sur nos émotions. Comment être découragé bien? Le découragement, c'est quelque chose que nous devrions expérimenter d'une manière assez régulière. Et le psalmiste nous montre pourquoi ne peuvent-ils pas vivre sans être découragés? Et pourquoi ne peut-il pas vivre sans être brisé? Et c'est ce que je voudrais que nous voyions aujourd'hui. Le psaume 51, j'espère que vous l'avez ouvert devant vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas accès à une Bible? Si oui, levez la main et nous en avons. Si vous avez besoin d'une Bible, parce que j'aimerais bien que vous voyiez les versets devant vous, je ne vais pas montrer les versets même. Mais ce psaume 51 est un des rares psaumes où la raison pour le psaume a été donnée. Il est marqué comme ceci. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Et j'aimerais bien que vous lisiez, peut-être juste écouter, mais sinon, 2 Samuel chapitre 11 et verset 1. On ne va pas lire tout le chapitre. Rien n'est plus candide, plus sans embellissement que les événements. J'avais énuméroté même événement par événement par événement, une douzaine, c'est-à-dire action par action par action. Je vous laisse faire. Je laisserai tomber peut-être à partir du verset 2, peut-être juste quelques mots. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche. Première idée. Il se promenait sur le toit de sa maison royale. Troisième idée. Il aperçut de là une femme qui se baignait. Prochaine idée, elle était belle de figure. Prochaine idée, David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Hété Étien. Prochaine chose, David envoyait des gens pour la chercher. Après ça, elle vint vers lui. Il coucha avec elle. Après ça, elle s'était purifiée de sa souillure. Après ça, elle est retournée dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Pas de couleur, pas d'embellissement, pas de traitement de texte pour que ça soit... C'était action après action après action, exactement comme il est marqué de ce que nous avons lu. Puis ça continue par dire, enceinte, cette dame, il faut que je trouve son mari. Je l'envoie, il est dans l'armée, il est en train de se battre, de protéger le royaume, de protéger le roi. David a envoyé un messager pour que Uri vienne tout de suite chez lui, pour qu'il aille chez lui, pour qu'il dorme chez lui, pour qu'il couche avec sa femme, pour que son péché soit couvert. Uri était un homme de grand caractère. Il est venu comme commandé. Il est rentré chez lui comme commandé. Il n'a pas dormi avec sa femme parce que il disait, et vous pouvez lire le texte, il disait, comment moi pourrait-il que je couche avec ma femme quand les autres personnes sont en train de risquer leur vie? Non, je ne peux pas faire. Il n'a pas fait. David le fait inévrer pour que le lendemain il soit peut-être incliné de coucher avec sa femme. Il a refusé carrément. David a envoyé une lettre à Joab pour dire « Mets-le devant le pire de la bataille pour qu'il meure. » Et puis le dernier verset, et le verset peut-être le plus euphémistique de tout, c'est-à-dire, il dit, attendez, la chose que David a fait déplut à l'Éternel. Déplut, rien que déplut. C'était un outrage. C'était une chose absolument impensable que David avait fait, et il a déplu l'Éternel. Et puis le prophète, dans le prochain chapitre, le chapitre 12, envoyait Nathan, le prophète, vers lui. L'Éternel envoyait Nathan vers lui avec une histoire calculée à tirer David dans le filet pour admettre son péché devant lui, sans peut-être qu'il sache. Et on ne va pas entrer dans cette parabole qui a été donnée, vous le connaissez peut-être, sinon c'est très intriguant de voir comment Nathan était dans une position délicate pour lui de venir vers le roi, et de terminer par dire, après David, écoute cette parabole qui le met en colère, contre un certain homme riche qui avait volé une brebis d'un homme pauvre. Et David a dit, il doit mourir cet homme pour avoir fait ça. Et Nathan a dit, c'est toi, cet homme riche, que tu venais de condamner à la mort. Et puis continue par dire, mais ton péché pardonné. Dieu va passer au-dessus. Par contre, il y aura des conséquences. Et ça continue. Alors, qu'est-ce que cela dit à votre voie de justice à l'intérieur de vous? Commettre un adultère flagrant comme ça, c'est un outrage. Cherche à couvrir par le meurtre, c'est encore plus outrageux. Mentir à tout le monde, tromper à gauche et à droite, essayant de couvrir péché sur péché, c'est outrageux. Qu'est-ce qu'on peut penser de pire? Mais ce peut être encore plus outrageux pour un juge juste dans un tribunal, de dire à une personne qui vient d'être accusée et dont les preuves sont bien évidentes, tu es pardonné, la justice va passer au-dessus, et ça y est. Il n'y a aucun juge sur la terre qui pourrait parler comme ça, agir comme ça, et être considéré juste. Et j'ai un problème aussi. J'avais toujours le problème en lisant ce passage à travers les années. Mais c'est vrai, comment ça se fait que l'outrage de David, qui était vraiment horrible, peut être surpassé par un outrage encore pire, d'être compris par le juge de justice et d'être fait passer comme s'il ne l'était pas? Ou est-ce que comme s'il ne l'était pas? Nous savons en tant que chrétiens ce côté de la croix certaines choses que les chrétiens de cette époque ne comprenaient pas. Mais nous savons aussi que la justice de Dieu doit absolument être à la lettre honorée, respectée jusqu'au minutieux détail. J'aimerais bien que vous tourniez en Romains, peut-être le verset le plus important qui capte ce qui est en train de se faire ici. Pourquoi Dieu a pu il passer au-dessus le péché de David? Et la réponse est en verset 25, le verset peut-être le plus important pour éclairer le psaume que nous sommes en train de lire, et pour éclairer tous les psaumes, et pour éclairer tout l'Ancien Testament. Parce qu'il était clair que les crimes en question sont punis par la mort. Mais nous lisons ici en verset 25. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être...
Il n'y a pas de verset 25.
Hein? 3, 25.
Il n'y a pas de... Quel chapitre?
Romains. Qu'est-ce que j'ai dit?
Le chapitre.
Ok. Romains 3, 25. Je suis désolé. Romains 3, 25. Merci de m'arrêter. N'hésitez pas de faire encore s'il faut. Romains 3, 25. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné, dans le passé, à être, dans le futur, par son sang, pour ceux qui croiraient, dans le futur, victime propitiatoire, c'est-à-dire le sacrifice expiatoire qui a propitié, satisfait, apaisé la colère de la justice, si vous voulez, les exigences de la justice. Victime propitiatoire, afin quoi? Afin de montrer sa justice, virgule, parce que il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, virgule, auparavant, David, il y a 50 ans, au temps de sa patience. Je recommence à 25 et j'ajoute 26. C'est Christ que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Pourquoi? Afin de montrer sa justice, ou bien afin de se justifier, afin qu'il justifie ce qu'il avait passé au-dessus chez David, afin de se justifier parce que il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Péché sur péché s'augmentait et Dieu avait laissé impuni les outrages de l'humanité, de l'homme et de ceux qui seraient un jour sauvés. Verset 26. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant ceux qui a la foi en Jésus. De ce côté de la foi, nous commençons à mieux comprendre, beaucoup mieux comprendre, mais toujours mystérieux, comment les gens de l'Ancien Testament qui venaient tous les jours pour sacrifier des animaux, sachant que ça n'irait pas pour ôté entièrement le péché. Ça apaisait la justice en attendant longtemps, semblait-il. La vraie sacrifice est la manifestation, enfin, d'une mort beaucoup plus outrageuse que la mort de qui que ce soit que vous connaissez, que les choses que vous avez entendues les plus horribles, ce qui s'était passé sur la croix du Calvaire était un outrage absolument incalculable, millions de fois plus outrageux, qui pourrait venir pour se mettre à côté de toutes les injustices, parce que c'était un substitut pour ceux qui croient que l'homme peut être justifié devant Dieu. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Les saints de l'Ancien Testament, les chrétiens de l'Ancien Testament, ils avaient une certaine compréhension, pas claire, ils n'ont pas compris comment ça se ferait, mais ils avaient compris qu'il y aurait une rédemption qui serait juste et complète et finie et terminale et satisfaisante à la moralité innée dans la justice de chaque personne. Mais ils ne savaient pas comment ça se ferait. Mais dans ce psaume, nous voyons David, le pécheur, un homme qui a commis des outrages. Il est très intéressant que dans le livre des rois, il est dit, quand il présente David qui a vécu une vie pieuse et qui a gardé constamment les lois de l'Éternel, sauf dans le domaine de Bathsheba, la femme de Luri, comme s'il n'y avait fait qu'un seul péché. Mais ce n'était pas un seul péché que nous sommes en train d'être affrontés ici. C'est-à-dire que David avait persévéré, il avait les hauts et les bas, il faisait des bêtises, des grandes bêtises. Dieu, en mettant un homme qui était au cœur, l'homme le plus proche du cœur de Dieu, il est appelé un homme après le cœur de Dieu. Si je voulais donner une biographie de la personne la plus proche à mon cœur, je mettrais du côté les bêtises, les stupidités, les outrages même, et je ne mettrais que des choses qui vous mettraient avec la même opinion que moi. Dieu a refusé de faire ça. Dieu a voulu que cet homme le plus qualifié d'écrire la plupart des psaumes, qualifié par ses bêtises, bien on ne peut pas sous-estimer les conséquences de péché. Jusqu'aujourd'hui, il y a deux sortes de personnes qui regardent cet événement de David et certaines qui prennent à la légère leur péché parce que regarde, David a fait pire que moi, ou au moins je ne fais pas pire que lui de toute façon, et puis il s'en va pour précipiter à leur destruction, aidé par le péché de David. Il y a beaucoup d'autres dans cette salle même qui peuvent regarder à cet événement avec une espérance et avec une joie, parce que vous savez que si Dieu a pu prendre un outrage comme ça, pardonner celui qui a fait cet outrage, sans que ça soit outrageux, parce que la mort que Jésus a expérimentée sur la croix, quand la totalité de l'accumulation des péchés de l'humanité a été déversée d'un seul coup, sans qu'il y ait aucune chose qui n'ait pas été là. Alors ça, c'est une chose donc que nous devrions rendre grâce. Beaucoup sont revenus au Seigneur, malheureusement. D'autres prennent ça comme une excuse de ne pas venir au Seigneur et donc à leur destruction. C'est une excuse qu'ils cherchaient quand même. S'il n'y avait pas ça, il y aurait autre chose. Mais Dieu utilise les psaumes. Alors, je sais bien que le temps va passer plus vite que je pourrais, mais je voulais quand même donner cette partie de cette histoire pour que nous comprenions. La plupart de nous, nous sommes au courant. Le reste, vous pouvez lire chez vous à la maison. Si vous n'avez pas une Bible, dites-moi à la fin du culte, je vous en donnerai un pour vous, pour que vous ayez à la maison même. J'aimerais essayer de vous conduire quand même à travers quatre réponses de David par rapport à ses péchés. Et la première chose que j'aimerais que nous voyons, que David tourne vers la seule source de miséricorde. Et il peut tourner vers cette source parce qu'il y a Exode qu'il connaissait très bien, comme d'autres qui parlaient de Dieu. L'Éternel disait devant Moïse, passa devant lui, Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Transgression, c'est une question de passer trop loin sur l'interdit. Iniquité, c'est plutôt question de rébellion volontaire contre le péché connu. Péché, question de manquer le cible. Dieu donne un standard, on n'arrive pas. Mais ce qui tient point, le coupable pour verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. David est ici. Nous sommes ici. Et qui punit l'iniquité des pères et des enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. David savait que la miséricorde est déversée sur certaines, mais il savait aussi qu'il y a certaines personnes, il n'y aura pas de miséricorde, il n'y aura pas de pardon. Il sait quand même que mystérieusement, il a déjà été promis qu'il y aurait une rédemption. Comment ça se ferait? Il n'a pas compris, mais il priait pour qu'il soit parmi eux et pas parmi les autres. Il a compris que Dieu, malgré le péché, malgré l'ampleur du péché, et on verra comment il va ça dans un instant, mais il prie, il va vers la seule source de grâce et de miséricorde. Si Dieu n'est pas gracieux, si Dieu n'est pas miséricordieux, c'est fini, il n'y a aucune autre source vers quoi il pourrait trouver le pardon. Et la deuxième chose, quelques notes que je voulais que vous voyez. David saisit le mystère de miséricorde. Il savait que certaines ne seraient pas pardonnées. Mais il savait que d'autres, par quelques œuvres de rédemption mystérieuses, seraient pardonnées. Nous savons plus que David, ce côté de la croix, mais nous saisissons ce mystère de la même manière que lui, quand nous venons devant le Seigneur après le péché. Et donc, la rédemption est là, le pardon. Plein de versets, plein de passages. J'aimerais bien que ce verset soit dans son contexte, mais notez de lire un Colossiens chapitre 1er, où quand il arrive au 13e verset, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. David avait prié en verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. En fin de compte, nous avons l'idée de miséricorde trois fois, rien que dans un verset, dans le verbe, dans « aie pitié », avoir pitié. Miséricorde est là parce que le Seigneur n'était pas obligé du tout, la justice n'était pas obligée du tout d'avoir pitié sur l'injustice. Miséricorde, selon ta grande miséricorde. Et le mot bonté aussi inclut l'idée de miséricorde dedans. Deuxièmement, David prie pour la purification. Il prie d'être purifié. Regardez verset 4, verset 9. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope. L'hysope était une branche que le sacrificateur utilisait pour mettre le sang sur l'autel et de l'eau sur des personnes parfois. Et quand, par exemple, il y avait une maison qui a été contaminée, et puis après la maison a été déclarée saine et sauf, il n'y a plus de maladie dedans, il faisait cérémonialement hyssope dans la maison pour annoncer à tout le monde « Cette maison est propre maintenant. » David dit « Fais ça pour moi, pour que je sois déclaré pur. » Il a voulu que ça soit le cas. Donc, il prie à son sacrificateur ultime. Et nous aussi, nous demandons pardon à Dieu. Il y a certaines chrétiennes qui disent, mais nous n'avons plus besoin de demander pardon parce que nous avons eu les péchés pardonnés à la croix. Dans Matthieu chapitre 6, ce que nous appelons le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, une prière qui est très valable, même vous avez un frigo, des armoires pleines de nourriture, de reconnaître que vous n'avez pas aucun biscuit qui n'est pas venu au Seigneur. Et donne-nous aujourd'hui, c'est une prière absolument correcte, malgré qu'il est là. Il pourrait ne pas être là. Dans une seconde, il pourrait ne pas être là si Dieu a voulu. Dieu n'a pas voulu pour la plupart. Dieu nous donne, mais il y a beaucoup de gens qui doivent prier ça exprès parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont manger quand ils se lèvent le matin. Vous qui le savez, devez prier avec autant d'ardeur parce que ce n'est pas autant une question de quantité ou qualité de nourriture physique. C'est une question de ne jamais oublier celui qui a pourvu pour que nous puissions manger. C'est une question, nous avons entendu ce matin, quand Lala était là, c'est Dieu qui est primordial et central dans notre vie d'existence. Nous voulons un dépanneur divin. Dieu veut que nous soyons la raison d'être, de vivre sur cette terre. Et il va dépanner ses enfants quand ils ont besoin et de sa manière, de la manière qui est bonne. Troisièmement, il avoue la gravité de ses péchés. Il y a cinq choses à noter. Et on va faire ça assez rapidement. En verset 5, je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant lui. David avait une conscience qui le tourmentait constamment, ça fait presque un an maintenant, plus que 9 mois, bien sûr, et quand Nathan est venu, ça aurait dû être un an, même peut-être un peu plus, ou jour après jour après jour, David ne peut pas fuir sa conscience. Les rois de cette époque, qui pouvaient avoir n'importe quelle femme ils voulaient, pour regarder quelque part, il envoie quelqu'un, vous êtes invité de venir, et vous avez le grand privilège d'être choisi par le roi, de vivre avec lui. Chacun avait beaucoup de concubins et tout cela. David aussi en avait. Et donc, il reconnaît devant Dieu sa conscience était tourmenté. Il n'y avait jamais un moment de relâche. Quand il se réveillait le matin, il parlait de son péché. Quand il travaillait pendant la journée, il l'attaquait. Quand il se dormait la nuit, il ne pouvait penser qu'à ça. Et il a montré ça. Il n'était pas obligé de dire ça, mais il dit ça pour que nous lisions. Et deuxièmement, le péché contre Dieu est le seul péché. On a du mal souvent à accepter ça. J'ai péché, verset 6, regardez. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste. Bon, juste cette première partie. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ce n'est pas à dire qu'il n'a pas fait du mal à Bathsheba. Ou à Uri, qu'il a fait tuer. Ou à sa famille qui angoissait de leur mort, de leur situation. Et à beaucoup d'autres pays, y compris tout le pays, on fait du mal aux gens. On peut faire du tort énorme aux gens. Mais on ne pêche qu'à Dieu. Dieu qui a établi notre standard de vivre de perfection, il a été offensé. David a reconnu le plus grand offensé. Oui, Bathsheba. Oui, Uri. Oui, le bébé qui meurt. Oui, d'autres personnes qui se trompaient. Mais contre toi seul, est-ce que j'ai péché l'énormité de violer le commandement et de le faire exprès et de le couvrir après dépasse sa conscience. C'est contre toi seul. Par définition, le mot péché parle de Dieu. Un péché, c'est une offense contre Dieu qui a établi la loi que tu as violée pour coucher avec Bathsheba, pour faire tuer son mari. David a constaté, beaucoup de gens ne le constatent pas. Ils sont offensés même par ceci. Il faut commencer vraiment à la racine, et David est allé jusqu'à la racine. Et aussi, la deuxième partie de ce verset, David ne cherche pas à se justifier. Au contraire, il justifie Dieu. C'est un peu étrange quand nous avons étudié, c'est Dieu qui nous justifie. Oui, mais afin que nous puissions justifier Dieu. Il y a plein de gens qui ne justifient pas Dieu ici. David justifie Dieu dans le sens qu'il dit, « Dieu, je implore ta miséricorde, mais je reconnais que si tu décides de ne me pas justifier, de ne me pas, pardon, pardonner, je le mérite. Je n'ai aucun mérite pour venir devant toi. Je suis comme le publicain. Aie miséricorde sur moi, c'est tout. Aie miséricorde sur moi, c'est tout. Je n'ai rien fait. Dieu, si tu me condamnes de quelque chose, si tu m'accuses de quelque chose, ma première réaction, c'est de me justifier, de minimiser ce que tu viens de dire de moi. Et de dire, mais écoute, tu ne comprends pas, tu as entendu juste la moitié, je n'ai pas voulu dire comme ça, etc. Je m'excuse. Les Français, ils aiment beaucoup ça. Mais je m'excuse, n'est-ce pas? Et les Américains aussi. On s'excuse tout le temps. David ne s'excuse pas ici. Il n'est pas en train de faire ça du tout. Tu es justifié. Si tu décides de ne pas montrer miséricorde, mais oh Dieu, montre-moi les miséricordes. Rien que ça. Aucune raison de donner pour dire, en principe, contre cette autre personne, tu devrais m'accepter parce que je suis moins mauvais que lui. Non, 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 pas du tout. Il ne se justifie pas. Il reconnaît son péché. Il rend encore, si vous voulez, plus coupable par verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Alors, je sais que c'est un verset assez discuté. Je sais qu'il y a des personnes qui disent, voilà, c'est pas ma faute, je suis né comme ça. Je suis né avec des impulsions que je peux pas contrôler. Et on s'excuse. Ce n'est pas ce que David est en train de faire. Il est en train de faire le contraire. Le psalmiste est en train de dire, ce que je fais parce que je suis depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur mauvais. Et si tu me laisses à moi-même, je vais faire encore pire. Je ne peux pas faire le bien, je suis incapable de faire le bien. Et il va dire, à moins que vous me changez, je suis inchangeable, sauf vers le pire. Est-ce que vous croyez ça de vous-même? Alors ne dis rien contre David, parce qu'il le croyait. Il savait qu'il était désespérément, absolument, en train de faire le pire possible, à moins que des restreints divins interposent et il soit délivré de sa nature pécheresse dans laquelle il n'existe aucun bien du tout. Alors ça, c'est l'enseignement biblique que beaucoup de personnes n'aiment pas. On n'est quand même pas si mauvais que ça. Et je sais, dans nos pays, dans notre pays en France, et aux États-Unis aussi, je le sais, la plupart des gens disent, oui, j'ai fait des bêtises, mais quand même, je suis pardonnable. Nous voulons un homme, nous voulons que David soit comme ça. Oui, on s'excuse une ou deux fois. Si grande que ça, peut-être pas. J'ai entendu quelqu'un qui récemment est en train de parler des gens qui disaient tu sais, si ce pédophile repente de ses péchés et se prosterne devant le Seigneur, il sera sauvé. Ah non, 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 non! Mais non! Un homme comme ça ne peut pas être sauvé. Un homme qui est stimulé pour un petit enfant, non, il n'y a pas de salut pour lui. Il n'y a pas de non-pardon pour qui que ce soit, si bien comme David est venu. Et beaucoup de raisons que nous avons, nous mettons le droit de jugement sur David parce que nous n'avons jamais pris le droit de jugement sur nous-mêmes. David se voyait tel qu'il était. Je suis né dans le péché. Je ne mérite absolument rien du tout comme mérite. Je plaide pour la miséricorde, mais je comprends très bien. Dieu n'a pas besoin de me montrer la miséricorde parce que je ne mérite que le contraire. Et comme nous avons lu tout à l'heure, il savait qu'il y a des gens qui ont été pardonnés. Et il voulait, « Oh Dieu, je veux être parmi eux. » Et puis, cinquièmement, David reconnaît la gravité de ses péchés parce que son péché était contre une lumière extraordinaire, singulière. Verset 8, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Tout de suite après le verset, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est une contradiction de termes, me semble-t-il. Né dans l'iniquité, conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Oh, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Dieu avait déjà fait pénétrer la sagesse au-dedans de David. David avait déjà écrit des psaumes de piété. David avait été déjà tout près de Dieu. David était un sage. David avait vécu une vie de sagesse. Et la Bible, depuis le début de son travail en tant que chef de l'État, il entrait, il sortait devant le public d'une manière sage, qui donnait beaucoup de confiance dans la population envers David et devant Dieu. Et David a glissé. David a glissé. Je devrais continuer. Enfin, je ne vais pas continuer parce que je vais diviser ce message en deux pour il y a 15 jours. Parce que je veux passer quelques temps sur la dernière chose qui est, il plaide pour changer. Il plaide pour le renouvellement. Et quand nous reprendrons ce passage avec une petite révision, nous allons voir 6 choses. Nous allons voir, il plaide pour qu'il soit confirmé dans son salut. Il plaide d'avoir un cœur pur, un esprit bien disposé, fin de instabilité, d'un cœur divisé. Il plaide pour la joie de son salut et pour un esprit de bonne volonté. Remarquable qu'il n'a jamais parlé une seule fois du sexe qui était son problème depuis le début, ni du meurtre, ni du mensonge. Il aurait dû au moins visiter ceci. Ce n'était pas la base du problème, ce ne sont que des effets, que des symptômes d'une maladie beaucoup plus grave que des impulsions incontrôlables. Une joie qui déborde en louange finalement et d'avoir une vie salutaire qui devienne grâce à ça un évangéliste. Mais on verra plus la prochaine fois. J'aimerais que vous veniez, mais que nous considérions avant de prier. Oui, j'irai en arrière à ça. Que nous cherchions dans ces passages de reconnaître que notre conscience, la dernière chose qu'il va dire, c'est que nous ayons un cœur brisé. Et ça, c'est exactement l'état dans lequel Dieu peut nous mettre, pas juste à un moment donné de crise, mais Dieu veut briser nos cœurs pour que ça reste brisé toute notre vie, pour que la vraie joie de vivre puisse exister et pas une artificielle, superficielle non-joie rigolade qui existe même dans beaucoup d'églises. Mais que nous ayons la vraie joie de savoir. La joie qui sort de moi sort parce que je ne peux pas contenir le joie d'être pardonné. Combien ici sont joyeux jusqu'à ça déborde parce que je suis pardonné, je suis pardonné, je suis pardonné. Mais non, je ne suis pas comme lui, je suis quand même pardonnable. Oui, d'accord, en fin de compte, j'ai fait ce qu'il me fallait. Mais Dieu aurait dû me pardonner. Mais bon, il faut que je confesse. Ça y est. Ça, c'est pas un chrétien. Ça, c'est pas un chrétien. Pas un chrétien à la joie. Parce qu'il est pardonné, qui augmente avec sa vie chrétienne. Ô Père Céleste, nous te rendons grâce. Parce que nous avons ce merveilleux psaume dans lequel nous devrions plongé souvent. À travers les siècles, des millions de chrétiens ont passé des heures et des heures et des jours et des jours dans ce psaume, entre autres. Seigneur, que nous soyons comme le psalmiste qui reconnaissait du fond, qui n'a rien caché maintenant. Il ne cherche pas à cacher, même devant le public. Il est tellement joyeux d'être pardonné, comme nous voyons dans d'autres psaumes, que peu importe ce qu'il a fait dans le passé, il n'a rien, il ne cherche rien à cacher. Quelle libération de savoir que nous avons un armoire des ossements qui ne nous dérange plus parce qu'ils ont été réglés par une mort outrageuse sur la croix, mille fois outrageuse que le pire de péché que nous avons dans un armoire depuis 30 ans, depuis 20 ans, qu'on n'ose dire à qui que ce soit. Mais ça tourne jusqu'aujourd'hui dans nos consciences, peut-être. Ô Père, que ce psaume devienne la libération pour chaque personne, que nous puissions voir nos péchés comme le psalmiste a vu son péché, comme l'apôtre Paul a vu son péché, et comme chaque pécheur qui vient au Seigneur doit forcément voir ses péchés, afin que nous puissions être changés pour vivre avec nos découragements, avec nos péchés involontaires, non aimés, et vite confessés et changés. Change-nous, Père. Sauve-nous de nos péchés. Merci, merci d'abord, parce que jusqu'à 1000 générations, tu déverses la miséricorde. Sur le coupable qui fait ce que faisait David, du fond du cœur. Pourquoi prier dans votre cœur avant de terminer? Oh Dieu, aie miséricorde sur moi. Je ne me justifie pas du tout. Je ne m'excuse pas. Tu n'es pas obligé de me pardonner. Mais montre-moi la miséricorde. Je t'implore. Merci d'écouter cette prière, Seigneur, que tu ne refuses jamais.